Nous continuons notre étude de l'évangile de Marc et nous continuons aussi une petite série au sein de cet évangile que nous avons commencé il y a un mois sur le chapitre 13. Chute de Jérusalem et fin du monde. Chute de Jérusalem et fin du monde. Je vais vous lire le passage en entier une fois de plus. J'ai dit dimanche passé que j'allais pas le faire, mais je vais le faire une fois de plus en vous rappelant et en disant aux visiteurs, parce que vous avez 3 semaines d'instruction que vous n'avez pas forcément suivi, que les disciples viennent poser à Jésus une question qu'ils pensent. Pour eux, c'est une question, mais c'est quand est-ce que ces choses, la destruction du temple que Jésus venait de prédire, quand est-ce que cela arrivera, la destruction du temple à Jérusalem, et la fin du monde? Pour eux, le temple de Jérusalem devait durer jusqu'à la fin de l'histoire. Donc, quand Jésus dit que le temple sera détruit, pour eux, il parle aussi de la fin du monde. Donc, ils associent les deux événements. Jésus va maintenant répondre et il va les dissocier. Parce que le temple de Jérusalem va être détruit dans cette génération où il parle. En l'an 70. Par les armées romaines. La fin du monde, c'est beaucoup plus tard. Donc je vous signale que jusqu'au verset 31, tout se réfère à la destruction de Jérusalem et du temple, et pas du fin du monde. Et quand on arrive à ce verset, je vous le dirai que maintenant Jésus va changer de sujet et parler de la fin du monde. Parce que beaucoup de chrétiens évangéliques pensent que cette première partie parle de la fin du monde. Ok? Ok, on parle de la chute de Jérusalem. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples dit « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Et le temple de Jérusalem était une des merveilles du monde à l'époque. Jésus lui répondit « Vois-tu ces grandes constructions? Il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple, c'est-à-dire du côté est du temple, et Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe annonçant la fin de toutes ces choses ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom et diront « C'est moi !» Et ils séduiront beaucoup de gens. » Ça s'est passé dans le premier siècle. « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, dans le premier siècle ne vous alarmez pas, car cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. » C'est-à-dire la fin de Jérusalem et de l'ancienne alliance et de l'époque judaïque, ainsi de suite. « Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura par endroits des tremblements de terre, il y aura des famines. » Et nous avons vu, en citant les historiens de l'époque, que toutes ces choses se sont bien passées dans l'Empire romain, entre l'année 35 et l'année 70. Car ce sera le commencement des douleurs. Prenez garde à vous-même, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Synagogues, donc c'est pas ici, c'est en Judée. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Et nous avons vu dans d'autres passages que dans dans cette génération, Paul en tout cas dit que l'évangile a été prêché dans tout l'oikoumené, c'est-à-dire le monde civilisé, c'est-à-dire c'était le mot qu'on employait pour l'Empire romain. Même la phrase « toutes les nations » aussi, Paul l'utilise en disant que l'évangile est parti dans toutes les nations. Ok, bien. « Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous direz. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, et nous avons vu que dans la version de Luc, qui n'écrit pas aux Juifs, dans ce même verset, il explique « Lorsque vous verrez les armées entourer Jérusalem ». L'abomination de désolation, c'est les armées romaines avec leur plein d'étendards avec des faux dieux, des idoles, ils étaient fameux pour cela, qui entouraient Jérusalem et qui allaient mettre ces idoles dans la ville de Jérusalem. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle doit pas être, que le lecteur fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée, ça ne nous concerne pas, ça arrive au premier siècle, en Judée, fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur la terrasse, parce qu'on avait des terrasses sur les toits des maisons, ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Parce que les chrétiens vont avoir juste le temps de fuir dans les montagnes avant que le massacre incroyable que dans l'histoire nous parle de Jérusalem et aussi de Judée par les armées romaines n'arrive. Malheur aux femmes qui sont enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, parce qu'on ne parle pas de la fin du monde, ce ne serait pas un problème pour ça, la fin du monde c'est la fin du monde. Mais s'il faut fuir physiquement dans les montagnes, c'est dur quand on est enceinte. Priez pour que cela n'arrive pas en hiver, ok? Car ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en a pas eu jusqu'à maintenant, de semblables depuis le commencement du monde que Dieu a créé et qu'il n'y en aura plus jamais. Et nous avons vu que l'historien Flavius Joseph, qui a vécu cet événement, a utilisé, il n'est pas chrétien, il a utilisé presque la même phrase en disant « Je crois que cette destruction de Jérusalem était le plus grand malheur qui se soit jamais tombé sur quelque peuple que ce soit. » C'était horrible. Écoutez les messages si vous voulez entendre pourquoi on peut dire cela. Et si le Seigneur n'avait pas abrégé ces jours, personne ne serait sauvé, c'est-à-dire sauvé de ce massacre, mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Et les chrétiens se sont bien enfuis au moment. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils opéreront des signes, des prodiges pour égarer, si possible, les élus. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout prédit. Mais dans ces jours, donc cette génération-là, après cette tribulation, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Et là, on ne parle pas du retour de Jésus à la fin du monde non plus. On parle de la chute de Jérusalem. Et il faut écouter le message pour comprendre comment le langage apocalyptique ici, des cieux et du soleil qui sont toujours dans l'Ancien Testament, des symboles de puissance politique qui tombent, un ordre mondial qui est remplacé par un autre ordre, est toujours décrit dans un langage apocalyptique, d'accord, dans la Bible. Alors il enverra ses anges et rassemblera ses élus des quatre vents et de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Donc évangélisation mondiale qui commence à partir de là et nous y sommes. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Pas proche pour la fin du monde, mais proche pour il vient pour juger Israël qui le crucifie, qui le refuse. En vérité, je vous le dis, écoutez bien ce verset, en vérité, je vous le dis, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. » Donc il dit que tout ce que je viens de vous dire va se passer dans cette génération, à vous, de la génération de ceux à qui je parle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. C'est une façon de dire tout cela est absolument vrai. Pour ce qui est du jour et de l'heure, maintenant il a changé de sujet parce que, ayant dit le ciel et la terre passeront, maintenant il est en train de parler de la fin du monde. Mais de ce jour-là, en grec, mais de ce jour-là, c'est-à-dire le jour où le ciel et la terre passeront, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, maintenant, ça c'est pour nous, hein. Plus directement, prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce sera le moment du retour du Christ. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et ne vous trouve endormi. Ce que je vous dis, je le dis à tous. C'est la première fois que Jésus parle comme ça. C'est pas juste à vous qui êtes devant moi cette fois. Ce que je le dis à tous. Veillez. J'aimerais bien voir ce film sur Noé qui vient de sortir. Vous l'avez vu? Personne l'a vu ici? Bon, Hollywood a détourné certaines choses, comme d'hab, n'est-ce pas? Il y a des choses qui sont pas du tout comme selon la Bible. Mais, j'aimerais bien le voir parce que j'aime les films qui parlent de l'avenir, n'est-ce pas? Vous dites, ok, allez-y, expliquez, parce que ça, c'est pas l'avenir. Vous savez que nous avons lu dans le culte que comme il a été au jour de Noé, ainsi il sera à l'avènement du Fils de l'homme. Une des seules choses que je sais explicitement au sujet de la fin du monde, c'est que les conditions seront comme dans les temps de Noé, où les gens se mariaient, se donnaient en mariage, mangeaient et buvaient, et bon, le déluge est venu comme ça, sans avertissement. C'est ce que nous avons lu. Il nous convient donc avec un saint respect, comme nous avons chanté, de nous pencher un moment ce matin sur le retour de Jésus-Christ et la fin du monde. Premier point. Jésus nous parle justement de la fin du monde et de son retour glorieux. Vous avez vu que dans le verset 31, c'est un verset qui met vraiment fin à un sujet pour passer à un autre. Donc il vient de dire beaucoup de choses et puis il dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles, tout ce que je viens de dire sur Jérusalem, ne passera pas. » D'accord? C'est comme pour dire « Je rassemble tout ce que je viens de vous dire, j'ai fini. » Mais maintenant, soyez sûrs que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le ciel passera, mais mes paroles que je viens de prononcer ne passeront pas. D'accord? Donc, nous voyons que si Jésus continue à parler maintenant, ça doit être un autre sujet. Et justement, il commence à répondre à la deuxième question que les disciples ont posée, parce qu'ils ont posé deux questions, bien que les deux étaient liés pour eux. Et ça se voit plus dans la version de Matthieu, chapitre 24. Matthieu donne le détail, d'accord? Si vous voulez, voilà, il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il? Donc, il vient de parler de que pierre sur pierre ne sera laissé sur le temple. Quand cela, destruction du temple, arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc vous voyez qu'il y a deux choses. Et maintenant Jésus doit répondre à la deuxième chose. Et il commence là au verset 32 à répondre à cette question. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas le Fils, mais le Père seul. Nous voyons que Jésus est en train de parler de la fin du monde et non plus de Jérusalem parce que il y a aussi un grand changement entre le vous savez, sachez. Ils vont savoir quand la fin de Jérusalem arrive. Il leur donne des signes. Et par exemple, dans le verset 28, en parlant de Jérusalem, il dit « Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez. Vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses, ces signes arriver, sachez. » Ok. Donc, pour la chute de Jérusalem, on est dans la connaissance. Mais quand il s'agit de la fin du monde, Jésus dit, regardez bien, verset 32, pour ceux qui de ce jour-là, littéralement, et de l'heure, personne ne les connaît. Et ensuite, verset 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez pas. Pour Jérusalem, il dit, vous savez. Ici, il dit, vous ne savez pas. Verset 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison. Et nous voyons deux choses complètement différentes. On est dans la connaissance, on sait, on doit savoir. Quand il faut fuir dans les montagnes de Judée et Jérusalem, mais quand, enfin, on sera pris à l'improviste, par surprise. Maintenant, je veux juste vous dire, en passant, avant de passer au deuxième point, soyons clairs que le monde n'est pas comme le bouddhiste dit. On veut de plus en plus de bouddhisme en France. J'entends toujours les Français maintenant me disent que je suis pas religieux, mais si je devais choisir une religion, ce serait le bouddhisme. Et si vous allez chez ostéopathe, vous avez une chance sur deux de tomber sur quelqu'un qui dit qu'il est bouddhiste. Parce que les croyances orientales sont beaucoup entrées dans ce métier. Mais la religion orientale nous dit que le temps est coincé dans une pérennité cyclique. Toujours la même chose, toujours la même chose. Mais c'est faux. L'histoire va tout droit, d'une manière linéaire, vers un but. Vers un but, chers amis, et nous sommes dans le trajet maintenant. Et nous ne savons pas où nous sommes dans le trajet, mais la flèche va arriver dans la cible et s'arrêter. Le Seigneur Jésus se révélera du ciel, de Thessaloniciens, avec les anges puissants au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur. Ils auront pour juste châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Quand il viendra pour être en ce jour glorifié de ses saints et admiré de tous ceux qui auront cru. Vous voyez? Division. Et aussi, car le Fils de l'homme, c'est Jésus qui parle, va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Nous allons vers cela, tout droit. Bien, nous passons au deuxième point, ça va? Jésus nous parle de la fin du monde et de son retour. Et c'est très bien, parce que sinon nous ne pourrions rien savoir là-dessus. Deuxième point. Nous ne pouvons pas savoir ni le temps exact, ni le temps approximatif de sa venue. Alors, vous pouvez être en désaccord avec moi sur ce point. Je vais essayer de vous montrer que c'est biblique. Beaucoup de chrétiens évangéliques, à cause de la confusion sur ce passage, pensent qu'on saura quand la fin viendra parce qu'il y aura tremblement de terre, guerre et rumeurs de guerre. Ils appliquent tout ce qui arrive à la chute de Jérusalem à la fin du monde. Mais Jésus ne parle pas comme ça. Je relis les versets 32 et 33. Pour ceux qui du jour et de l'heure, Personne ne les connaît, pas même les anges dans les ciels, pas même le Fils de Dieu, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Littéralement, en grec, le temps. C'est pas le, c'est, vous ne savez pas quand ce sera le temps. Maintenant, je voudrais vous donner quelques arguments pour vous montrer que c'est pas simplement littéralement le jour ou l'heure que tu ne vas pas connaître, mais même l'époque, tu vas pas savoir. Ok? Quand Jésus dit personne ne sait le jour ou l'heure, il parle de manière figurative. Parce que vous pouvez être assez logique pour dire que bon, si je savais pas l'heure, mais je savais au moins la décennie, j'aurais pas tellement besoin de veiller comme quelqu'un qui ne sait pas. On est dans un état différent. Si je sais qu'il vient dans ces jours-là, j'ai pas le même besoin de veiller à tout temps. J'ai besoin de veiller à tout temps, même quand je ne vois rien de qui me donne l'idée qu'il vient, parce que il peut venir là. Mais je vais vous donner des arguments plus costauds. Avant de le faire, il faut que je m'arrête, parce que vous êtes en train de vous dire, si vous avez bien écouté, comment est-ce qu'il peut dire que même le Fils de Dieu ne sait pas le jour de son retour? Ça vous a chatouillé un peu, là. Nous savons, chers amis, que Jésus est complètement Dieu, est devenu complètement âme. Et pendant son séjour sur terre, il s'est privé volontairement de certains de ses pouvoirs divins, de l'utilisation de ses pouvoirs divins, de sorte que un jour, une dame vient le toucher pour être guérie, et il dit « Qui m'a touché ?» Parce qu'il ne savait pas. Parce qu'il se privait volontairement de l'utilisation de son omniscience pour que son humanité ne sache pas. Il voulait vivre comme un vrai homme, parce que il va tricher s'il utilise l'omniscience. Donc, il doit vivre avec les limites d'un homme. Mais vous pouvez vous dire, mais le Père aurait pu lui dire quand même. Même dans son humanité, il aurait pu lui dire. Pourquoi est-ce que le Père a choisi de ne pas confier à Jésus l'homme le jour de son retour? Je pense que la raison, c'est pour que Jésus, en parlant là, il parle à la première génération de chrétiens et il leur dit « Veillez, parce qu'il se peut que le Fils de l'homme vienne dans vos jours. » Et Jésus pouvait dire ça en toute honnêteté parce qu'il ne savait pas. S'il savait, il n'aurait jamais pu dire ça à cette génération parce qu'il aurait su que c'est plus de 2000 ans... À venir, vous n'avez pas, vous, ça vous concerne pas, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il y a dans la providence de Dieu cette raison-là. Ok. Maintenant, pourquoi est-ce que je dis que vous ne pouvez même pas savoir l'époque? Je fais référence d'abord au fait que Jésus dit. Vous ne savez pas quand viendra le temps. Le temps. Donc, il définit ce qu'il veut dire par le jour et l'heure. Il ne donne aucun signe. Aucun signe pour la fin du monde. Il dit simplement, vous ne saurez pas. Mais nous pouvons aller un peu plus loin. Si vous regardez avec moi le livre des Actes, chapitre 1 et les versets 6 et 7, nous voyons quelque chose d'intéressant ici. C'est juste avant que Jésus monte au ciel, et les disciples reviennent sur la question de la fin du monde, et ils posent cette question. Eux donc, réunis, demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétablis le royaume pour Israël? Pourquoi cette question? Parce que dans Daniel 7, il est prédit que les saints vont prendre possession du royaume. Ils sont en train de penser comme des juifs qui connaissent la prophétie. Quand est-ce que les saints vont prendre possession du royaume? Et est-ce que c'est en ce temps que tu rétablis le royaume pour Israël? Et je ne vais pas rentrer dans la discussion d'Israël. Personnellement, je crois que l'Israël maintenant, c'est tout le peuple de Dieu, juif et non-juif, graffé sur Israël, l'Église chrétienne. Mais bon, ça c'est une autre question. Mais regardez bien la réponse de Jésus. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et d'autres versions disent les saisons ou les époques. Ce sont des mots qui parlent d'un temps beaucoup plus grand, plus vaste. C'est pas à vous de connaître les temps, les époques, proches ou loin. Ce n'est pas à vous de savoir ces choses. Maintenant, est-ce que nous croyons le Seigneur? Ce n'est pas à vous de connaître, pas simplement les 24 heures le jour, pas simplement l'heure, les 60 minutes, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps, les moments, les époques. Et puis, nous trouvons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, ces mots. Pour ce qui est des temps, et des moments, et je crois que le mot moment est kéros, qui veut dire saison ou pas moment dans le sens de la montre, mais un moment, événement. Oui. Voilà. Mais en tout cas, il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. J'ai pas besoin de vous écrire en vous disant à quel moment est-ce que le Seigneur vient et vous donner des signes, parce que vous savez, il va venir comme un voleur, c'est-à-dire sans annonce, sans précurseur. J'ai parlé avec ma sœur hier soir qui vient de subir une opération importante à la nuque, au nuque, à la nuque, excusez-moi. Donc, elle m'a dit que rentrée à l'hôpital depuis un jour, à 5 heures le matin, ils ont eu des voleurs qui ont essayé de pénétrer dans la maison quand ils étaient là. Elle m'a décrit la scène. Son mari qui laisse aller les deux grands chats sortir de la maison pour aborder ces messieurs. Elle qui va à la fenêtre et qui voit juste à 3 mètres d'elle le bonhomme qui court. Enfin, n'est-ce pas? Donc, mais le voleur, il n'y a pas une saison de voleur. Hein? Ah oui, on arrive à mars. Du 10 mars jusqu'au, c'est la saison des voleurs. On ne sait pas le jour, mais on sait que c'est dans ce temps qu'ils viennent. N'est-ce pas? C'est pas comme les gens qui vendent les pommes de terre, n'est-ce pas? On sait que, à peu près maintenant, vous allez, on vend les pommes de terre, n'est-ce pas? C'est pas comme ça. C'est comme le voleur. Ensuite, vous pouvez vous dire que peut-être le livre d'Apocalypse, nous dit quand même plein de signes. Pour la fin, le livre d'Apocalypse n'est pas un livre futuriste, c'est-à-dire ce livre n'est pas consacré à nous décrire ce qui arrive vers la fin du monde. Le livre d'Apocalypse décrit à 7 cycles, et dans chaque cycle dans le livre, il décrit toute l'histoire chrétienne depuis la première venue de Jésus jusqu'à son retour. 7 fois. Chaque fois, selon un angle différent. Donc, ce n'est pas un livre qui nous parle spécialement de la fin pour nous donner des signes de la fin. Il nous parle de toute l'histoire chrétienne. Je veux juste vous donner un petit, parce que vous ne devez jamais me croire parce que moi je l'ai dit, hein. Je veux juste vous donner un petit quelque chose pour vous montrer. Apocalypse 1:1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Apocalypse 1:3. Heureux celui qui lit et qui écoute les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche pour ce qui est écrit dans le livre. Parce que tu as gardé, Apocalypse 3:10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai moi aussi de l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Pourquoi est-ce que j'ai dit mis ce verset? En tout cas, 22:6, il me dit, ces paroles sont certaines et vraies, le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Dernier verset, 22:10, puis il me dit, ne ferme pas d'un saut les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Quand Daniel a eu ses prophéties dans le 6e siècle, avant Jésus-Christ, Dieu lui a dit, tu vas fermer ce livre avec un sceau parce que le temps est loin. Et il n'y avait que 6 siècles entre les prophéties et la réalisation. Maintenant, si il dit dans le livre d'Apocalypse, ferme pas les sceaux parce que le temps est proche. Ne me dites pas que tout ce qui est dans ce livre parle de maintenant parce que c'est 2000 ans plus loin. Non. Le livre d'Apocalypse parle de toute l'histoire chrétienne et donc ne peut pas nous donner vraiment des signes de la fin. Je passe au troisième point, et ça c'était le plus difficile, le plus long. Mais je veux juste vous donner cette application pour vous. Jésus pourrait revenir aujourd'hui, demain, ce mois ou cette année. Selon lui, il a dit même à la première génération, et ça peut être pour vous. Donc pour lui, il dit ça. Ok. Troisième point. Jusqu'au retour de Jésus, il nous donne deux charges. Regardez bien dans notre passage le verset 34. Et c'est là que je vais vous donner votre charge pour aujourd'hui. Jésus dit, prenez garde, veillez, priez, je lis le verset 33, car vous ne savez quand ce sera le moment. Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, laisse sa maison, donne pouvoir à ses serviteurs, à chacun sa tâche, et commande au portier de veiller. Vous avez vu les deux choses? Vous ne les avez pas vues? Les serviteurs ont deux choses. Bon, chaque illustration est difficile à maintenir parfaitement contre la réalité, mais il dit à chacun sa tâche. Donc, on a un service à faire en attendant que Jésus vienne, n'est-ce pas? En attendant Jésus, servez-le là où vous a placé. Deuxièmement, qu'est-ce qu'un portier fait? Comment? Il veille pourquoi? Comment? Oui, mais dans cette illustration, il attend que le maître revienne pour lui ouvrir la porte, n'est-ce pas? Quand j'étais en Côte d'Ivoire, dans les maisons des gens aisés, il y avait toujours un gardien qui était devant le portail. Il était là tout le temps. Il dormait là. Ils étaient souvent deux. Un de nuit, un de jour, mais il était là constamment, sur sa chaise en bois, et il fallait pas qu'il dorme, hein, parce que son rôle, entre autres, si le maître de la maison était parti, un de ses rôles était de veiller pour que, quand il arrive, le portail est déjà ouvert. Donc, d'une part, de servir là où il m'a placé, d'autre part, d'être dans l'attente. Vous comprenez cette tâche, cette deuxième charge, d'être dans l'attente. Maintenant, on va juste considérer ça. D'abord, servez-le fidèlement en son absence, ça vous comprenez. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais le deuxième partie, gardez-vous dans l'attente de son retour. Nous voyons ça un peu mieux dans Luc 12, où nous lisons ceci. La version de Luc, Jésus dit, « Mettez une ceinture à vos reins et que vos lampes soient allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir aussitôt qu'il arrivera et frappera. » Vous avez vu? Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. En vérité, je vous le dis, il se scindra, le maître de la maison, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ouh là là, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que le Christ vient nous servir à table, si nous sommes ceux qui l'attendent. Maintenant, pourquoi est-ce que, d'abord je vous pose la question, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est en train de servir le Christ en attendant qu'il vienne? Est-ce que votre vie peut être décrite une vie au service? Je sais que vous avez votre métier, votre vocation, que vous enseignez ou que vous travaillez dans l'usine ou que vous êtes informaticien, mais dans cela et avec cela, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est au service de Jésus-Christ? Voilà. Et deuxièmement, est-ce que vous êtes quelqu'un qui de jour en jour se garde dans un esprit d'attente? Peut-être il viendra aujourd'hui. Ce sont les deux choses dont le Seigneur nous charge. Et vous pouvez comprendre que ne pas être à l'attente de Christ montre quelque chose au sujet de votre cœur, votre attitude envers lui. N'est-ce pas? Si quelqu'un croit vraiment, si tu crois vraiment qu'il est le Fils de Dieu, et que entre son départ, sa montée au ciel, et son retour, tout ce qui se passe entre les deux, c'est des détails. Dans un sens, je sais qu'il y a des choses importantes et graves qui arrivent, mais en face de son retour, qui met fin au monde pour juger les vivants et les morts, pour prendre les siens, pour commencer la vie éternelle, pour faire une nouvelle terre et des nouveaux cieux dans lesquels la justice habite, changement des changements, la consommation du plan de Dieu, entre maintenant et ça, tout le reste est un détail. C'est un peu comme lorsque ma femme est partie pendant un bon moment, elle n'est pas là, je peux le dire, et elle va dans 2 semaines en Afrique du Sud pour visiter la famille, et je sais que le jour où elle arrivera, ben, je l'espère, si ça va bien ici dans mon cœur vis-à-vis d'elle, que je vais être de plus en plus à l'attente, n'est-ce pas? Et pour moi, ce que je fais dans la journée, c'est rien, parce qu'elle arrive, elle arrive. La chose qui m'occupe, l'esprit, n'est-ce pas, c'est son arrivée. Et ça, c'est comme lorsque mon fils était petit et il a demandé que je lui achète un jeu informatique dans une boîte de céréales. Tu envoyais le coupon, n'est-ce pas, et puis tu recevais le... Et donc, on a rempli le formulaire, on a envoyé le coupon avec les quelques euros, c'était des francs à l'époque, des dizaines de francs. On devait envoyer ça à Paris, donc on vivait à Chalon-sur-Saône. Et donc, c'était, je crois, un lundi qu'on a envoyé ça. Et mon fils avait la particularité d'être un gros dormeur. Pour le réveiller le matin, c'était toute une histoire, n'est-ce pas? Il fallait des chatouillements sérieux pour qu'il se lève pour aller à l'école primaire. Mais, donc, on envoie ce truc lundi à Paris. Mardi matin, pour la première fois, de bonne heure, il est levé. Il est levé! Je dis, mais pourquoi est-ce que tu es debout? Est-ce que mon jeu est arrivé? On peut aller à la boîte des lettres? Quoi? Vous voyez, il était dans l'attente. Il était dans l'attente. Et quand on est dans l'attente de quelque chose, ça change notre manière de vivre les choses ici-bas, maintenant. Parce qu'on est dans l'attente. C'est cette attitude que Jésus nous demande. Le dernier point, c'est que ces deux charges exigent que nous restions éveillés spirituellement. Regardez le verset 33, je vais essayer de boucler ça rapidement. « Prenez garde, veillez et priez. » Ensuite, le verset 34, « Il en sera comme d'un homme qui part en voyage, ainsi de suite. Plutôt le verset 35, « Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître. » Et ensuite, le verset 37, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc, c'est quoi être un chrétien éveillé ou un chrétien qui veille? Est-ce que tu es un chrétien qui veille? Ou est-ce que ce commandement n'a aucune place dans ta vie chrétienne? Luc peut nous aider parce que il nous explique le cœur endormi, quelqu'un qui ne veille pas. Il le dit comme ceci dans sa version. Il dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès ou l'ivrognerie ou par les soucis de la vie et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Vous avez compris? Il y a des choses qui guettent, qui vous guettent, qui guettent votre cœur. Je suis certain, parce que je suis comme vous. Et il est décrit comme deux choses. Il en cite trois, mais deux catégories. Des plaisirs et des soucis. Des plaisirs de cette vie et des soucis de cette vie prennent mon cœur parfois pour que le retour glorieux de Christ perde son importance. Sa place dans mon cœur. Et donc, veiller, c'est prenez garde à ce que mon cœur n'aille pas dans la folie, dans une folie bizarre. Je ne peux pas imaginer que dans 4 semaines, le jour de l'arrivée prévue de ma femme, que je sois tellement plongé dans la comptabilité du foyer sur mon iPad ou son iPad, j'en ai pas, que j'oublie que c'est le jour où elle vient, n'est-ce pas? Tellement, les soucis, il y a des choses qui cadrent pas là dans la comptabilité. Je suis tellement prise, tellement inondée par les chiffres ici que j'oublie que ma femme arrive. Bon, ça peut arriver, surtout à des hommes. N'est-ce pas? Mais sur un plan spirituel, ça ne doit pas arriver. N'est-ce pas? Vous comprenez? Et que devons-nous faire? Tout simplement, la consigne du Seigneur dans le verset 33 et aussi dans Luc 21-36, c'est veillez, priez. Je cite Luc et je termine comme ça. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous voyez que tout seul, vous n'allez pas être dans cette attente. Moi, j'arrive pas tout le temps à être dans cette attente. Et je crois qu'une des raisons, c'est le manque de prière. Mais est-ce que nous nous sommes bien rendus compte que nous avons presque ici la charge de prier quotidiennement au sujet du retour de Jésus-Christ? Parce qu'il dit « Veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et paraître debout devant le Fils de l'homme. » Voilà une prière dans le sujet, la venue du Fils de l'homme. Et moi, je dois prier à ce sujet. Alors, je vous laisse avec cette idée. Est-ce que moi et vous, nous ne devrions pas intégrer dans notre vie quotidienne de prière une prière à peu près comme ceci? Tous les jours, posément, en prenant le temps, pour que nos cœurs entendent bien ce que nos lèvres disent. Seigneur, viens aujourd'hui, je t'attends. Et aussi, aide-moi à me garder dans l'attente de ta venue. Aide-moi aujourd'hui à vivre comme je le ferai si je savais que tu venais aujourd'hui. Aide-moi à vivre aujourd'hui comme je le ferais si je savais que tu venais aujourd'hui. Ce serait avec une grande attitude d'attente, n'est-ce pas? C'est le jour! N'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas dire c'est le jour, mais nous pouvons dire c'est peut-être le jour. Et c'est ce que nous devons dire tous les jours. Je crois que ça nous ferait beaucoup de bien. Moi, je ne vous parle pas de manière légalistique et de moraliste en disant vous n'êtes pas des bons chrétiens si vous. Non, je veux vous rendre comme Jonathan lorsqu'il ne dort plus, lorsqu'il était excité, passionné, parce qu'il était dans l'attente. Et je crois que toute notre vie chrétienne sera haussée, levée dans son temps, si nous restons dans cette attente que le Seigneur pourrait revenir aujourd'hui. Nous allons chanter le numéro 145, plein d'espoir.